profession philosophe. Mais être philosophe, est-ce un métier? Est-ce une vocation? Comment se fabriquent les concepts? Et quel est le rôle du philosophe dans la cité? Mon invitée aujourd'hui est maîtresse de conférences habilitée à diriger les recherches à la faculté de philosophie de l'Université de Lyon. Et elle aime les auteurs Minores, ceux qui ont interrogé les canons philosophiques pour penser autrement l'histoire de la philosophie. Son premier amour, c'est Descartes et Malebranche, auxquels elle consacre son travail de thèse soutenu en 2000 et primé 4 fois. Mais en 2011, elle publie le texte méconnu d'un jeune cartésien du XVIIe siècle appelé Poulain de la Barre, qui écrit sur l'égalité entre les deux sexes et sur l'éducation des dames pour la conduite de l'esprit dans les sciences et dans les mœurs. Quelques années plus tard, elle co-dirige un ouvrage sur Élisabeth de Bohême face à Descartes, puis travaille sur Marie de Gournay, interlocutrice de Montaigne, dans le but de réhabiliter l'une puis l'autre comme philosophe à part entière. Alors comment nos concepts contemporains peuvent-ils éclairer le travail des penseurs du XVIIe siècle? Comment la pensée du corps et la différence des sexes se formulaient-elles il y a plus de 3 siècles? Aujourd'hui, bond dans le temps, avec Marie-Frédéric Pellegrin, on commence avec l'arrivée du prince charmant, mais oui.
Depuis le temps que je brode sans relâche mon trousseau, j'en ai vu passer des modes, j'en ai tordu des ciseaux. Hélas, je ne peux plus mettre mes culottes de pilou, sécher devant la fenêtre sans ameuter les voyous. Depuis le temps que je l'attends, que je l'attends. Depuis le temps que je l'attends, que je l'attends, mon prince charmant.
Voilà, j'arrive, mon aimé, j'ai séché tes culottes au mépris des méchants. Longtemps déjà, je t'ai cherché, vois des petites sauter leurs nylons alléchants.
J'ai des piles de chemises attachées d'une faveur, jamais je ne les ai mises, il en aura la primeur. J'ai brodé des kilomètres de torchons et de draps blancs, ne me reste plus qu'à mettre ses initiales dedans. Depuis le temps que je l'attends, que je l'attends. Depuis le temps que je l'attends, mon prince charmant.
Voilà, j'arrive, mon aimé, tu peux broder mon S à côté de ton A. Longtemps déjà, je t'ai cherché, tant pis pour la jeunesse, on fait avec ce qu'on a.
Voilà, j'arrive, mon aimé. Bonjour Marie-Frédéric Pellegrin.
Bonjour Adèle.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin depuis chez vous.
Si
le prince charmant débarquait aujourd'hui et que c'était Bobu la Pointe, quel accueil est-ce que vous lui feriez ?
Très chaleureux, bien entendu. Surtout avec cette voix lasse du prince qui ne viendra jamais, qui n'a aucune envie d'aller jusqu'à sa bien-aimée. Mais c'est vrai que j'avais envie de rendre hommage à Anne Sylvestre,
bah oui,
qui a bercé mon enfance. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Et puis... J'ai trouvé que cette chanson était particulièrement intéressante parce que, bon, d'abord, il y a le duo homme-femme, et puis il y a cette femme qui attend, qui est passive, cet homme dont on attend la décision. Donc, je trouve que ça situe bien le destin féminin sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire qu'effectivement, la petite fille commence à broder son trousseau assez tôt, et puis empile les draps, les culottes, les chemises de nuit, et attend d'être mariée. Et là, le côté humoristique, évidemment, est savoureux parce qu'elle l'attend toute sa vie au lieu de construire sa vie elle-même. Et puis d'autre part, ce que je trouve intéressant dans cette chanson, c'est le côté tissé, quenouille qu'on associe aux femmes sous l'Ancien Régime. C'est-à-dire, effectivement, elles sont faites pour la quenouille et pas pour le débat, pas pour les professions. Et là aussi, c'est assez savoureux. Donc, comme c'est une chanson vraiment de mon enfance, j'adore Anne Sylvestre aussi bien pour ses chansons pour adultes que pour ses chansons pour enfants. Je trouvais que ça résumait bien beaucoup de choses qui m'intéressent aussi par ailleurs.
Je ne savais pas qu'un homme c'était aussi déroutant. Ce doit être ce qu'on nomme un don juan. Et pourtant, je pense à ce que ma mère a failli me dire un soir. Des choses bien singulières que je ne veux pas savoir. Depuis le temps que je l'attends, que je l'attends. Depuis le temps que je l'attends, j'ai des doutes maintenant.
Voilà, j'arrive, mon aimé, que madame ta mère excuse mes propos. Mais pourquoi donc t'ai-je cherché? La vie est trop amère avec une vieille peau.
Depuis le temps que je l'attends, que je l'attends.
Voilà, j'arrive, mon aimé,
depuis le temps que je l'attends. Que je l'attends.
Voilà, j'arrive, mon aimé.
Depuis le temps que je l'attends. Que je l'attends.
Voilà, j'arrive, mon aimé.
Eh bien, n'attendons plus. Alors, en quoi cette chanson, Marie-Frédéric Pellegrin, résume-t-elle aussi ce que vous faites par ailleurs? C'est ce que vous étiez en train de nous dire.
Oui, d'abord, j'aime bien la chute quand même.
Bah oui.
La construction de la chanson est assez. Original, et ça aussi ça me plaît beaucoup dans ce morceau. Bien, justement, la femme qui tisse, la femme qui attend un mari, évidemment ça rejoint une conception de la femme contre laquelle tout un tas de philosophes sur lesquels je travaille, qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs, s'insurgent. Et le savoir féminin lié à l'aiguille, au fil, etc., c'est quelque chose qui est souligné notamment à la fois par Descartes et par Poulain de la Barre. Puisque quand Descartes veut expliquer les règles de l'attention, dans les règles pour la direction de l'esprit, dans la règle 10, eh bien, il prend l'exemple des femmes qui tissent des fils et des points très différents et qu'il faut pour cela une attention toute particulière. Et Poulain de la Barre, le cartésien féministe de la seconde moitié du XVIIe siècle sur lequel j'ai travaillé aussi, il s'inspire certainement de ce passage de Descartes en insistant sur le fait que ces travaux féminins en fait apprennent une habileté de l'esprit et non pas simplement des mains, qui permet de philosopher. Donc on part des savoirs féminins pour postuler que toutes les femmes peuvent faire de la philosophie. Donc c'est pour ça que aussi cette chanson me parle énormément.
Est-ce que c'est par la question du féminin que vous êtes entrée en philosophie? Je ne crois pas.
Du tout.
Oui. Comment ça s'est passé?
C'est vraiment, comme vous l'avez dit dans votre présentation, Descartes et Malebranche qui m'ont intéressée en premier lieu et qui continuent évidemment à être structurants dans ma réflexion. Et c'est par hasard, en effet, vous avez tout à fait bien retracé la chronologie, que j'ai croisé Poulain de la Barre grâce à un ami, André Charac, qui m'en avait recommandé la lecture. Et je m'étais dit, ça va être un petit excursus, ça va être amusant de travailler sur justement un auteur mineur très peu connu en France. Et je m'attendais même à quelque chose d'un peu folklorique, pour tout vous dire. Un cartésien féministe, qu'est-ce que ça peut être? Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que je me suis plongée dans cet auteur. J'ai vu des raisonnements d'une solidité imparable. Il pensait à tout, aux aspects physiques, psychologiques, proprement intellectuels, sociaux, politiques, moraux, de cette question de l'égalité. Et en fait, il a constitué un tournant, en effet, dans ma réflexion, parce que il m'a forcé à relire Descartes et Malebranche autrement. Descartes parce que c'était sa matrice théorique, et Malebranche parce que finalement c'était un autre continuateur de Descartes, mais qui va dans une toute autre voie du point de vue de sa réflexion sur les femmes. Donc en fait, j'étais en train de tisser un réseau de solutions et de problèmes sur ce sujet des sexes qui était tout à fait inattendu et qui me passionne encore maintenant.
Mais alors remontons encore plus loin, encore en amont, pourquoi avoir choisi de travailler sur Descartes? En fait, pourquoi avoir fait le choix de la philosophie comme métier? C'est votre métier, vous vous dites philosophe, non?
Non,
d'accord.
Je ne me dis pas philosophe.
Prof de philo, c'est ça.
Je me dis historienne de la philosophie, parce que pour moi, il y a vraiment une vraie différence. Enfin, je pense que c'est tout simplement par... Enfin, il y a une ambiguïté dans le terme de philosophe. J'ai l'impression que c'est un terme qui est lié à une aura particulière qu'on trouve pas, par exemple, si on se dit historien, vous voyez. Mmh. Et du coup, j'hésite à assumer ce terme parce que, d'abord, il me paraît très, très impressionnant. Et puis ensuite, parce que effectivement, si je suis philosophe, c'est comme pratique d'enseignante, de chercheuse. Mais si on suit Deleuze et que le philosophe se caractérise par proprement la création de concepts, hein, l'idée que deleuzienne que en réalité les questions sont en philosophie sont proches à travers les époques, mais les solutions sont à chaque fois conceptuellement différentes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est me plonger dans l'époque qui me passionne depuis le début, c'est-à-dire l'âge moderne, et de voir comment on construit un monde, comment on répond à des problèmes avec des types de concepts particuliers. Mmh. Donc, c'est pour ça que j'aime bien le mot historienne de la philosophie. Alors, après, il peut y avoir quelque chose d'ancien, de poussiéreux, et ça, je ne crois pas, parce que quand j'ai lu Descartes, Malebranche ou Poulain de la Barre, ça me permet aussi de comprendre mes pratiques, le monde actuel. Donc, c'est là où je pense qu'effectivement, il y a des concepts particuliers à chaque époque et que ces concepts sont pris justement dans l'époque et de ce point de vue-là peuvent être datés avec d'énormes guillemets. Mmh. Mais en réalité, la philosophie, l'histoire de la philosophie, elle est vivante. Et donc, ça veut dire que la manière dont réfléchissent ces gens-là, justement parce qu'elle est décalée par rapport à notre époque, a quelque chose d'intemporel et qui peut nous éclairer sur notre époque. C'est ça qui est fascinant dans le fait de faire de l'histoire de la philosophie. C'est qu'on se rend compte que la distance entre histoire de la philosophie et philosophie, pour moi, elle n'existe pas, à moins qu'on soit vraiment un pur créateur de concepts. Sinon, dans nos pratiques de philosophes, on pense le temps présent, mais les anciens, de manière générale, c'est-à-dire un ancien, ça commence à quelqu'un qui a publié un livre l'année dernière, pour moi, hein. Mm-hmm. C'est déjà de l'histoire de la philosophie. Eh bien, les anciens, que ce soit Diogène ou Wittgenstein, ils nous aident à comprendre le temps présent. Donc, j'adore cette jonction, si vous voulez, entre le concept qui a quelque chose de situé et puis le concept qui a quelque chose d'éternel. Et d'intemporel. Et ça, je le trouve chez Descartes, je le trouve chez Malebranche, je le trouve chez Poulain, d'une manière qui me paraît vraiment prégnante.
Et est-ce que vous le trouvez chez vous ? Parce que je voulais vous demander comment vous avez rencontré la philosophie, mais vous êtes fille de philosophe, vous êtes la fille notamment de Pierre Pellegrin, que j'ai beaucoup reçu à ce micro-là, spécialiste d'Aristote. Est-ce que vous diriez que vous êtes née dans la philosophie ?
Oui, effectivement, je suis une fille d'intellectuel, et c'est un fardeau.
Ah oui. Non, moi, c'est clair.
C'est un fardeau et une chance. Et voilà, c'est-à-dire que effectivement, je me suis demandé au moment où vous m'avez fait gentiment cette invitation, que dire de mon imprégnation de l'histoire et de la philosophie, parce que ma mère est historienne. Donc mon père fait de la philo, ma mère fait de l'histoire, moi je fais de l'histoire de la philo. Donc vraiment, je pense
une fille
être
parfaite.
Une fille parfaite.
Voilà.
Voilà. D'un point de vue bien. En fait, je me suis demandé, mais est-ce qu'on parlait de philosophie à la maison, à table ? Et je n'en ai pas l'impression. En revanche, il y a effectivement un questionnement sur le monde, il y a un regard sur le monde, un regard critique, en fait. J'apprécie beaucoup ça. C'est vraiment ce que mes parents m'ont principalement apporté. C'est-à-dire toujours de se méfier de ce qu'on nous dit et toujours garder une distance critique dans l'analyse de ce qu'on nous dit. Ça m'a beaucoup apporté. Après, effectivement, fille d'intello, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on passe son enfance à devoir se taire. Parce
ah
que
bon
les parents travaillent.
Ah oui, pour respecter le travail des parents qui travaillent à la maison.
Voilà. Donc moi, si vous voulez, pour moi, l'enfance, c'est aussi devoir beaucoup me taire et lire dans ma chambre. Et c'est ça, en fait, qui a fait évidemment une partie de ma formation. Récemment, en fait, je lisais, j'ai beaucoup apprécié les romans de Elena Ferrante, son cycle là, sur la vie prodigieuse et puis le dernier sur la vie mensongère des adultes, parce que, alors évidemment, c'est une auteure qui a eu beaucoup de succès, Naples, les femmes, l'histoire de l'Italie sur plusieurs dizaines d'années, tout ça est assez bien fait. Mais moi, en fait, ce qui m'a le plus plu, c'est les pages où elle parle des enfants d'intello. Puisque certains de ces personnages, dans les deux romans, sont des intellectuels. Et on a le point de vue de leurs enfants. Et effectivement, ils doivent se taire, ils doivent les laisser travailler. Le travail intellectuel, c'est long. Les recherches, alors ce sont des universitaires. Et ils demandent de la paix, du temps. Ils vont s'enfermer dans leur bureau, etc. Et je me suis dit, mais on ne dit jamais ça dans les romans.
C'est vrai.
Ça ne devrait pas être très intéressant. C'est très routinier. Il n'y a pas de péripéties. Mais je me suis complètement reconnue là-dedans.
Mais quand vous étiez petite, quel métier est-ce que vous vous disiez que votre père était en train de faire? Et est-ce que celui que vous faites aujourd'hui vous paraît similaire à l'image que vous faisiez du prof de philo à l'époque?
Je ne sais pas. Je pense que je me disais que mon père était professeur avant tout, puisqu'il a commencé dans le secondaire. Et que quand on est professeur, eh bien, ce que perçoivent d'abord les enfants, je le vois avec les miens, c'est les copies. Copies. On a l'impression qu'on fait un métier, notre métier consiste à corriger des copies. Mais encore une fois, voilà, il y a le rapport au livre, il y a le rapport au bureau, à la pièce fermée où on réfléchit, et ça, évidemment, ça marque pour la suite.
Descartes a découvert sa première vérité philosophique. Il l'a découverte en réfléchissant dans sa chambre, une chambre chauffée par un poêle, pendant l'hiver. La vie l'avait conduit à voyager et il pouvait très bien méditer en voyage. Il ne faisait pas de séparation entre la vie intérieure du philosophe et une vie extérieure qui pouvait être très bien mouvementée.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, profession philosophe, aujourd'hui en compagnie de Marie-Frédérique Pellegrin, et vous venez d'entendre Maurice Merleau-Ponty parler de Descartes. C'était le 31 juillet 1959, au micro de Georges Charbonnier. Qu'est-ce qui vous a tant plu chez Descartes, Marie-Frédérique Pellegrin, parmi tous les philosophes sur lesquels vous pouviez travailler?
Alors là, vraiment, l'extrait est particulièrement bien choisi, parce que ce qui m'a plu chez Descartes, c'est le fait qu'il commence par nous raconter sa vie.
Ah oui.
Dans le discours de la méthode, et c'est exactement la démarche de votre émission, me semble-t-il. C'est-à-dire, il nous raconte comment il est devenu philosophe. Et en effet, c'est assez surprenant, parce qu'on peut être philosophe et mercenaire, être très bon à l'école et avoir une méfiance à l'égard de ses maîtres. Enfin, ce début du discours de la méthode, c'est quelque chose d'assez inouï, je trouve, philosophiquement. C'est pas simplement « je me donne un exemple » ou « je réfléchis à partir de moi ». C'est nous montrer, on est embarqué dans une vie philosophique et qui ne correspond pas forcément aux standards que nous a laissé l'Antiquité ou la Renaissance. C'est encore quelque chose d'autre, c'est un mélange de tout ça pour une vie qui à chaque fois est unique. Donc vraiment, là, l'extrait est particulièrement frappant. Oui, on peut faire de la philosophie à cheval, on peut faire de la philosophie dans un poêle, on peut faire de la philosophie dans un tonneau, dans un jardin. Les lieux de la philosophie sont très divers parce qu'à chaque fois, c'est une aventure intellectuelle personnelle. Pour moi, le discours de la méthode, il y a des œuvres de Descartes qui sont plus spéculatives, plus savantes, etc. Mais finalement, on revient toujours au discours de la méthode. C'est un texte tellement à la fois accueillant, au sens où le vocabulaire est simple, complexe, parce que la phrase est très belle, très longue, et qui parle de soi et de la philosophie d'une manière aussi mêlée et aisée. Enfin, c'est un texte tout à fait fascinant. Et donc, je pense que c'est tout simplement ça. Il ne faut pas chercher plus loin. Ce qui m'a plu, ce qui explique mon choix de Descartes, c'est le discours de la méthode, tout simplement.
Et comment est-ce que vous expliquez qu'on ait tant de mal en philosophie à faire se rejoindre ce que Merleau-Ponty appelait la vie intérieure et la vie extérieure? Comme s'il ne fallait pas parler de soi, il ne fallait pas dire « je », alors que Descartes le fait justement comme point de départ. Mais il y a toute une tradition philosophique qui veut exclure ce « je-là » et qui veut exclure la vie personnelle, la vie du philosophe, de celui qui est en train de philosopher.
Oui, c'est assez curieux parce que le modèle antique, c'est quand même Socrate ou Pyrrhon qui n'ont jamais rien écrit, et dont la vie est l'œuvre, c'est-à-dire qu'on vit philosophiquement, et le témoignage de votre entourage, de vos disciples sur votre vie, montre ce que c'est que philosopher. Philosopher, c'est une vie, une pratique, une action quotidienne, il n'y a pas besoin de longs traités de tous ordres. Donc, pourquoi on a perdu ça? Au départ, effectivement, le philosophe, c'est un genre de vie. C'est celui qui aime la sagesse et qui va vivre par rapport à cet amour-là qui va être tellement prédominant qu'il va orienter toute son action, toutes ses manières d'être et d'agir dans la cité, dans le jardin, n'importe où, hein, quel que soit l'environnement au moment où le philosophe vit sa vie de philosophe. Donc, il y a quand même un basculement avec Platon quand, effectivement, on sort de l'éthique philosophique, hein, du fait que la philosophie, c'est un éthos, c'est une mise en scène de soi pour quelque chose qui est beaucoup plus théorique, écrit, certains diront dogmatique. Je ne dis pas que Platon ne vit pas selon sa philosophie, mais si vous voulez, il y a besoin d'expliquer théoriquement au lieu de vivre tout simplement cette vie philosophique. Donc,
et pourquoi ? C'est un malentendu quant à la définition de la philosophie ? On voudrait la faire trop théorique ? C'est une sorte de snobisme, il faut parler de choses importantes et non pas du corps et de ses besoins ?
Je pense que, en fait, c'est deux voies qui se sont instaurées avec Socrate et son principal disciple Platon, et que ces deux voies, finalement, chacun doit se positionner par rapport à eux, c'est-à-dire, effectivement, est-ce qu'on peut se rejoindre la vie et l'œuvre ou pas ? Et chez Descartes, il me semble qu'il y a ça. Moi, ce qui m'a fasciné, évidemment, c'est le discours de la méthode, et puis un peu plus tard, j'ai lu Adrien Bayet. Et Adrien Bayet, il a écrit une vie de Monsieur Descartes. Hein. Il a écrit très peu de temps, 30-40 ans après la mort de Descartes. Et alors, la vie de Descartes, la vie de Monsieur Descartes par Bayet, a été beaucoup décriée à l'époque. Parce qu'il parlait du régime de Descartes. Sachez que Descartes aimait beaucoup les panais, par exemple, qui est un légume très controversé, qu'il mangeait quasiment pas de viande. Il nous explique combien de perruques avait Descartes. Il nous explique très longuement pourquoi Descartes a eu une fille. Parce qu'un philosophe, ça n'a pas de corps, ça n'a pas de sexualité, ça n'a pas de vie personnelle. Et donc là, il y a des passages très embarrassés de Bayet, parce qu'évidemment, on a beaucoup reproché cela à Descartes, hein, dans les polémiques avec tout un tas de savants hollandais qu'il a eus. C'était un argument dans les textes polémiques contre lui, dans les pamphlets contre lui, qui revenait souvent. Le fait que Descartes était un galant, que Descartes avait une fille, que Descartes avait des amours, etc. Et le pauvre Adrien Bayet essaye de réhabiliter le philosophe, parce que effectivement, le philosophe, ça, c'est censé être une œuvre et pas un homme de chair et de sang. Et alors, cette biographie de Descartes par Adrien Bayet est tout à fait fascinante. Elle est énorme. Il reprend tout. Il a des documents inédits à foison, des témoignages. Et alors, on voit une vie multiple et avec toutes ces strates de nos vies, c'est-à-dire du plus intime au plus public, les stratégies pour se faire connaître, les relations personnelles. Descartes pleure. Hein, il pleure la mort de sa fille. On a le droit de pleurer, dit Descartes. Descartes rencontre tel ou tel pour valoriser ses œuvres. Descartes voyage, enfin vous voyez. Et donc, il me semble que Descartes, qui est justement un philosophe qu'on pourrait associer à d'abord une œuvre, nous explique qu'il y a moyen de rejoindre les deux voies qui s'étaient un peu séparées, c'est-à-dire le philosophe qui philosophe par sa vie et le philosophe qui philosophe par son œuvre.
Je pense que parmi les jeunes, il y en a en effet beaucoup qui assument leur rôle de père et qui partagent les travaux de la maison même avec leur femme, avec une conscience presque coupable d'être un homme. Je pense qu'il y en a un certain nombre. Il ne faudrait pas exagérer, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup, beaucoup.
Vous venez d'entendre la voix de Simone de Beauvoir, c'était le 2 février 1979. L'exergue du deuxième sexe est une citation de Poulain de la Barre, c'est pas vous que je vais l'apprendre, Marie-Frédéric Pellegrin, qui appelle à se méfier des écrits masculins. Voici ce qu'on peut lire. « Tout ce qui a été écrit par les hommes sur les femmes doit être suspect, car ils sont à la fois juges et parties. » Cette phrase est dingue.
Oui, oui, elle est merveilleuse, parce que Elle dit quelque chose qui, d'un point de vue scientifique général, est très important quand on fait de la recherche, quel que soit le domaine. C'est la question des biais, tout oui. simplement. Des biais dans nos manières de lire ou de voir des données ou de mettre en place des expérimentations et des expériences si on est en sciences dures, etc. Et cette phrase, c'est une phrase, fondationnelle du point de vue méthodologique quand on fait de la recherche. Alors, moi, je pense qu'on ne peut pas échapper au biais, c'est-à-dire je ne crois pas à l'objectivité de la science, mais en être conscient, essayer de les contrer le plus possible par tout un tas de méthodes, de gestes d'attention, c'est là notre tâche. Et effectivement, quand vous regardez tout ce qui a été dit sur les femmes jusque récemment, eh bien, il n'y a que des hommes qui ont parlé des femmes. Alors, quand je dis cette phrase, il y a deux éléments à retenir. Il n'y a que des hommes qui ont parlé des femmes. C'est pas vrai. C'est-à-dire que si on cherche un peu mieux, on se rend compte qu'il y a de nombreuses femmes qui ont parlé des femmes. Ça, c'est un premier geste scientifique et méthodologique très important auquel, à mon petit niveau, j'essaye de contribuer en ce moment. Et puis, deuxièmement, quand les hommes parlent des femmes, là aussi, il faut chercher, parce qu'ils n'en parlent pas du tout tous de la même manière, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il y a certains hommes qui arrivent à contrer, en tout cas à être vigilants à l'égard de ces biais théoriques. La phrase que vous venez de citer de Poulain de la Barre...
On va la répéter. « Tout ce qui a été écrit par les hommes sur les femmes doit être suspect, car ils sont à la fois juges et parties. »
Voilà, c'est une phrase de Poulain de la Barre et qui montre, on est dans la seconde moitié du XVIIe siècle, une attention à ces biais quand on étudie un objet quel qu'il soit. En l'occurrence ici, les femmes. Et le point de vue masculin sur les femmes, il est biaisé, et donc il faut essayer de trouver des moyens de contrer ces biais-là. Alors chez Poulain, on est au XVIIe siècle, donc que va-t-il mobiliser ? Il va mobiliser le témoignage des femmes elles-mêmes. Ça, c'est un point qui m'a toujours beaucoup fasciné, c'est-à-dire que moi, je l'appelle l'observateur du beau sexe, parce qu'il se présente comme ça. C'est-à-dire que il a une méthode d'enquête. Il va enquêter. Alors, il regarde comment on éduque les filles, il interroge des femmes autour de lui, il précise bien qu'il interroge des femmes de toutes conditions. On est au XVIIe siècle, hein. C'est-à-dire que ça ne se passe pas dans les salons, ça se passe aussi à la campagne. Et alors, il y a un passage particulièrement savoureux où il dit « Alors, j'ai fait mes études à la Sorbonne, on m'a dit plein de choses sur Dieu, sur l'âme. Bon, j'en suis sortie, je comprenais encore moins ce qu'était Dieu et l'âme qu'en entrant à la fac. » Et je suis allée interroger des campagnardes. Alors, aucune ne m'a sorti des concepts abscons. Aucune m'a dit qu'il était une flamme éthérée, etc., etc. Il cite plein d'expressions qui appartiennent à différentes écoles philosophiques pour parler de l'âme ou pour parler de Dieu. Et elles en sont revenues au bon sens et au fait que, voilà, c'est un être qui nous dirige, qui nous dépasse, qu'on ne peut pas le situer d'un point de vue ontologique. Enfin, vous voyez, et donc il va faire jouer le bon sens, évidemment, contre l'érudition, contre la culture savante. Et là aussi, c'est un moyen de contrer les biais méthodologiques. C'est-à-dire qu'il y a une science des savants, ce qu'il appelle les savants ordinaires, et puis il y a une science spontanée qui est liée au bon sens, posé dans la première phrase du discours de la méthode, ce bon sens égal entre toutes et tous. Et donc, en revenant au bon sens, on parvient également à faire bouger les biais interprétatifs, à les maîtriser, à en être conscient et à les dépasser. Donc voilà, l'enquête. Et le deuxième procédé qui m'a beaucoup intéressé chez lui, d'un point de vue méthodologique, pour éviter d'être juge et partie, c'est le fait de trouver un discours le plus neutre possible sur les sexes, c'est-à-dire se mettre dans la peau des femmes. C'est tout le travail qu'il a effectué sur pourquoi le féminin, la féminité est liée à des choses négatives, est liée à la faiblesse, est liée à la dépendance, à l'enfance. Donc, de ce point de vue-là, il propose des choses assez intéressantes, notamment dans son troisième traité qui s'appelle « De l'excellence des hommes », qui est un titre ironique, évidemment.
« De l'excellence des hommes contre l'égalité des sexes ». C'est
voilà.
Ça le titre entier.
Donc, c'est un livre assez intéressant parce que, en fait, Poulain a été déçu qu'on ne réagisse pas à ses propositions et il a décidé de se mener à lui-même la controverse et de se porter à lui-même l'objection, d'où le titre Hein, c'est-à-dire qu'il est censé s'opposer à son premier traité de l'égalité des deux sexes. Et au bout d'un moment, évidemment, il n'arrive pas. C'est-à-dire qu'il y a le milieu du traité, bon, bah, c'est tous les arguments misogynes à travers les temps qui sont repris, les principaux arguments qui sont très topiques, hein, qui sont détaillés, etc. Et on fait mine de les valoriser. Et puis, dans une énorme préface et dans une énorme postface, hein, qui comme enserre le texte misogyne lui-même pour l'étouffer en quelque sorte, Poulain reprend sa voix naturelle et explique et démonte tous ses préjugés. Et l'un de ses procédés méthodologiques, c'est justement de dire, ben, prenons par exemple la Bible, où effectivement il y a des passages qui paraissent misogynes. Prenons Paul, où effectivement dans les lettres pauliniennes, il y a des passages qui paraissent misogynes. Et remplaçons tous les « il » par des « elle ». Est-ce que le message en est changé ? Non. C'est-à-dire qu'en fait, on s'adresse à l'humanité entière et qu'il n'y a aucune raison de prendre ces commandements pour s'adressant particulièrement aux femmes. Donc, quand l'Ancien Testament nous explique que il y a très peu que les femmes doivent se taire, que il y a très peu de femmes savantes, que le jeune homme doit se méfier des femmes, etc. Ben, si on inverse les genres, eh bien, ça marche tout aussi bien.
Mais ça, c'est une thèse très forte qui s'opposerait aujourd'hui à l'écriture inclusive. C'est-à-dire qu'au fond, derrière le « il », il y a aussi du « elle ».
En fait, il nous manque vraiment un neutre en français. C'est pour ça qu'il est contraint à ce changement de genre. Parce que, justement, la langue française n'est pas forcément spontanément neutre. C'est pour ça qu'il doit faire cette inversion. Parce que dans le « il », on entend souvent « il » quand même. Au sens du masculin.
Oui, on l'emploie comme un neutre alors qu'il est masculin.
Alors, on devrait. Oui, on l'entend. Enfin, l'oreille qui entend le il, elle a du mal à se dire parfois qu'il est neutre.
C'est ça.
Même malgré elle, je pense. Mmh. Voilà.
Et comment est-ce que vous expliquez que Poulain de la Barre soit si peu étudié aujourd'hui ? J'ai dit que Beauvoir le citait en exergue du deuxième sexe. Malgré cette place, on ne peut pas dire que Poulain de la Barre occupe les vitrines de librairie.
Alors, en fait, Poulain de la Barre, il est étudié beaucoup chez les anglo-saxons. Mmh. Et ça, c'est très énervant. Parce que, effectivement, c'est un grand auteur français. Et évidemment, eux, ils ont reconnu son importance philosophique bien avant nous. Alors, cette importance philosophique, en fait, elle doit se comprendre dans le temps long. C'est pour ça que moi, j'aime bien l'histoire de la philosophie. C'est-à-dire qu'il faut voir que Poulain, en fait, il montre qu'il y a une postérité féministe de Descartes dès le XVIIe siècle. C'est quand même quelque chose.
Oui.
C'est pas beaucoup plus tard, en distordant les concepts. C'est quelques années après la mort de Descartes, hein, 23 ans exactement, on écrit que la suite naturelle du cartésianisme, c'est une égalité totale entre les sexes, du point de vue du corps, du point de vue de l'esprit, du point de vue de l'union de l'âme et du corps, et que cela doit avoir des conséquences sociales et politiques. Et donc, en réalité, il fixe quelque chose que moi j'essaye d'étudier sur le temps long, c'est-à-dire du moderne au contemporain, qui est les destinées du cartésianisme dans l'histoire du féminisme. C'est assez passionnant, parce que en fait Descartes est un point clé dans l'histoire du féminisme, et il est un point clé qu'on le rejette ou que on en fasse un des pères du féminisme d'un point de vue théorique. C'est assez incroyable. Vous avez deux traditions antagonistes dans l'histoire du féminisme qui expliquent l'une que Descartes, c'est le début de la mathématisation, c'est le début d'une rationalité qui est intrinsèquement masculine et qui empêche les femmes d'accéder aux travaux de l'esprit et qui empêche leur reconnaissance dans le monde de la science, etc. Et puis vous avez une tradition qui dit, mais pas du tout. Chez Descartes, justement, il y a un effacement, il y a une neutralité totale de sexe, il y a un dialogue permanent avec des femmes savantes de son temps, Christine de Suède, Élisabeth de Bohême, voilà. Et donc, au contraire, il est décisif dans l'inclusion des femmes dans l'histoire des sciences. C'est quand même incroyable qu'il y ait ces deux traditions qui, à chaque fois, se battent sur Descartes comme point crucial dans l'histoire de l'émancipation des femmes. Or, Poulain de la Barre arrive Et il montre bien que dès le XVIIe siècle, on peut avoir une interprétation féministe totale du cartésianisme. Donc, c'est pour ça que je trouve que peut-être qu'on ne l'étudie pas assez, mais que de toute façon, il a une telle force théorique que c'est en voie de reconnaissance, si vous voulez. Je dirais que en France, à l'université, puisque moi je travaille à l'université, on a du mal à inclure justement ces auteurs moins connus dans un corpus qui est souvent assez assez sclérosé, assez très stable hein, depuis le 19e siècle. Et donc voilà, c'est notre rôle aussi de montrer qu'il y a d'autres philosophies. Moi, je fais toujours une petite séance, quel que soit mon cours. Oui. J'essaie de caser une petite séance sur Poulain de la Barre et sur les interlocutrices féminines de Descartes. Et ce que je constate, c'est que les étudiants sont extrêmement intéressés et qu'après, en master, c'est des sujets qui les intéressent beaucoup parce que évidemment qu'on a envie de voir toute l'étendue d'une philosophie, tout ce qu'elle peut donner jusqu'à l'époque contemporaine. Mmh.
Quand on s'approche de votre cœur, Marie-Frédérique Pellegrin, ou de votre tête, on entend ceci.
Je peux vous aider ?
Ouais, dégage le vieux.
Ouais, c'est ça le vieux, tire-toi.
Je t'explose la face.
Ouais, mais avant, file-nous ton portefeuille, connard.
On va le défoncer, cet
enculé. Ouais, viens te battre, enculé.
Ça, petit gars, c'est une crosse.
Défonce-lui la queue.
On s'en sert dans les matchs de hockey. Mais on peut aussi s'en servir pour tuer.
Il m'a tué la jambe, ce con. Crève-le, putain.
Pourquoi je te graverai pas mon nom sur ta sale gueule?
Une seconde.
Écorche-lui la gueule, je vais le tuer.
C'est un gâteau, ce truc-là.
Vas-y, taille la gueule.
Ça tombe bien. J'en cherche un bien depuis des semaines. Il va être parfait pour poser ma moquette. Un petit conseil, les pisseuses. Si vous vous trompez d'adversaire, vous trompez surtout pas d'arme.
De Poulain de la Barre à Elliot Lester, qu'est-ce que nous venons d'entendre, Marie-Frédérique Pellegrin ?
Bon, alors j'avoue, c'est un peu une passion coupable. J'aime beaucoup Jason Statham, justement pour l'ensemble de son œuvre, évidemment, tous les transporteurs, les Fast and Furious, etc. Parce que voilà, pour moi, c'est la masculinité toxique complètement décalée, complètement ironique. J'adore cet acteur. Et je trouve la cohérence de son parcours filmique assez étonnante sur les standards traditionnels du masculin. En plus, il reprend un petit peu la tradition des Dirty Harry et ces flics, violents, masculinistes au dernier degré, encore une fois. Moi, je le trouve vraiment extrêmement drôle. Alors ça, c'est la première scène d'un film qui s'appelle Blitz, ouais. Où vraiment toute sa beauté et la finesse de son jeu éclate. Et dans ce film, voilà vraiment tous les topos du vieux flic revenu de tout et bougon et qui considère que la meilleure façon de résoudre une enquête, c'est la violence, quelle qu'elle soit. Un peu plus tard dans le film, il y a une autre scène où il interroge un indic dans un bar, évidemment, enfumé et obscur. Et l'indic lui donne plein d'indications, et donc l'autre, Statham, l'écoute. Et à un moment, l'indic lui dit « Mais vous prenez aucune note ?» Et Statham répond « Est-ce que j'ai une tête à avoir un stylo ?» Et alors pour moi, c'est la plus belle réplique de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que ça mêle vraiment masculinité et anti-intellectualisme. Ouais. « Est-ce que j'ai une tête à avoir un stylo ?» Moi, ça me fait hurler de rire à chaque fois. Alors évidemment, ce film, il ne passe pas le test de Bechdel, hein, le fameux test des féministes que j'aime beaucoup. Vous vous souvenez des trois critères, hein, ouais. On regarde un film si, un, il y a deux femmes qui sont nommées, si, deux, elles parlent entre elles, et si, trois,
elles parlent pas d'un autre homme.
Entre elles. Voilà, c'est ça. Alors là, effectivement, dans Blitz, j'avoue que ce n'est absolument pas le cas.
Mais c'est ça qui est formidable, c'est que ça gâche pas votre plaisir de voir ce film, au fond, que ce soit en désaccord avec, par ailleurs, sans doute, des convictions féministes.
Oui, vraiment, je trouve, parce que là, il y a vraiment quelque chose d'ironique. Il y a, finalement, ça vaut beaucoup mieux parfois que de tout un tas de discours revendicatifs, parce que là, c'est, il y a quelque chose de caricatural, mais qui est réjouissant. Et là, on l'a entendu en VF, mais alors la voix de Jason Statham est magnifique. Aussi, je le souligne pour les éventuels amateurs.
D'autant que dans l'extrait qu'on a entendu, il y a une espèce de mise en parallèle entre le hockey et le meurtre. C'est ça, le hockey sur glace et le meurtre.
Oui, ça, j'aime beaucoup cette idée qu'il a un sport à lui qui est un mixte entre le hockey et le meurtre. Et à la fin, la traduction française a traduit par « pisseuse », je crois, « partez les pisseuses », ce sont des voyous qui sont en train d'attaquer sa voiture et qu'il va évidemment dégommer les uns après les autres. En anglais, c'est « girls », tout simplement. Hein, donc vraiment, il y a vraiment l'idée qu'il y a les filles et il y a les garçons qui, eux, savent faire des sports qui mêlent le hockey et le meurtre.
Est-ce que les films, alors peut-être pas celui-ci en particulier, mais est-ce que le cinéma en général est une manière peut être utile pour expliciter des thèses philosophiques, ce qui est souvent fait, mais peut-être encore plus peut être ressaisi pour des dimensions philosophiques qui seraient inhérentes en fait au cinéma. Est-ce que vous pensez que dans un film il peut y avoir une même richesse interprétative que dans un texte philosophique?
Alors, je pense qu'en tout cas l'interprétation de l'image qui bouge, c'est un domaine passionnant. C'est un domaine passionnant. Moi, je n'y connais absolument rien. Je suis cinéphile, bien sûr, mais enfin, j'aime beaucoup le cinéma de tout type. Mais je serais incapable d'interpréter le mouvement cinématographique d'un point de vue philosophique. Mais pour moi, ça appartient à l'histoire de l'art désormais, hein, et on peut lire et expliciter une scène de Hitchcock de la même façon qu'on le fait pour un tableau. Et donc, je pense que un cinéaste, en tant qu'il est un créateur, a forcément une pensée, une manière d'agencer la forme et le fond qui peut avoir un usage philosophique. Après, évidemment, je saurais pas vous en dire plus. C'est pas un matériau que j'utilise en cours, par exemple, d'un point de vue pédagogique.
Vous en utilisez d'autres ? Extra-philosophiques ?
Non, pas vraiment. Moi, en fait, j'aime bien faire des plaisanteries, essentiellement.
Ce qui est un excellent matériau à la portée de tous.
Oui, moi, je pense que faire cours, c'est permettre aux étudiantes et étudiants de passer un bon moment de réflexion collective. J'essaye, en tout cas.
Et est-ce que vous êtes en paix avec votre rôle de prof de philosophie qui transmet des textes qui la précèdent largement et qui essaye d'en montrer la lecture contemporaine, ou est-ce que vous êtes travaillé par l'idée ou l'envie d'écrire quelque chose qui vous est propre et de faire votre œuvre au fond ?
Non, pas du tout. C'est pour ça que, vous voyez, j'ai tenu à préciser que je me sentais plus historienne de la philosophie que philosophe. Quand on fait de l'histoire de la philosophie, on est soi-même amené à créer des concepts, des interprétations, etc. Mais je n'ai pas le désir d'une œuvre propre. Je dois dire que je me complète tout simplement dans la pensée des gens que j'étudie. Il y a quelque chose de fascinant pour moi à se glisser dans la peau d'un autre et à essayer de comprendre comment il peut penser cela à ce moment-là, dans cette complexité-là, pourquoi il construit cette œuvre de cette manière-là. J'ai une manière assez, comment dirais-je, qui passe par l'identification beaucoup dans ma manière de penser mes corpus quand je me saisis d'un auteur. Vous avez signalé tout à l'heure, par exemple, qu'en ce moment, je travaille sur Marie de Gournay.
Oui.
Marie de Gournay, c'est la génération de... Elle est un tout petit peu avant Descartes, mais elle meurt à peu près à la même époque que Descartes. Donc, il y a un côté, c'est une contemporaine de Descartes. Et en fait, comme c'est la fille d'alliance de Montaigne, que c'est l'éditrice de Montaigne, etc., elle a été très perturbante au début pour moi, parce que elle ne s'exprime pas du tout comme Descartes. C'est pas du tout le style classique de Descartes. Et j'ai eu un moment de doute en me disant, mais en fait, c'est autre chose. C'est encore une auteure de la Renaissance. Je ne vais rien y comprendre. Je ne vais pas pouvoir m'identifier, comme je le fais toujours, à sa manière de raisonner. Elle écrit des petits traités de briques et de brocs dans tous les sens. Enfin, ça n'a pas du tout l'unité, la progressivité qu'on peut voir, par exemple, chez un Descartes. Et donc, j'étais extrêmement déroutée. Et en fait, mon premier travail sur les textes, c'est ça. C'est essayer de me dire, bon, alors, comment elle a pu envisager son œuvre, comment elle a pu le développer de telle ou telle manière, comment elle a construit les choses. Et cet auteur, par exemple, est tout à fait fascinante pour cela, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une femme qui construisait entièrement son destin de philosophe. Mmh. C'est-à-dire que pas à pas, elle s'impose dans la République des Lettres, elle elle remplit les étapes nécessaires pour une reconnaissance dans cette République. Ça aussi, c'est intéressant. La manière dont se tissent les réseaux, comment se fait les opérations de mentor à disciple. Il y a des phases d'acceptation dans la République des Lettres qui sont d'ailleurs pas si éloignées des nôtres. Ça aussi, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire, la reconnaissance académique, ça passe par des étapes d'initiation progressive, hein, des types d'écrits, oui, des types de jugements, des lettres de recommandation, des types d'adoubements, hein, et qui participent de la construction de ce soi comme auteur. Et alors, elle est fascinante là-dessus, parce qu'elle est une femme, elle est pauvre, elle est célibataire. Certains disent même qu'elle est moche, la pauvre. C'est un thème qui revient énormément et qui est très dérangeant, évidemment, hein, l'idée qu'une femme doit être belle pour qu'on l'écoute. Et pourtant, elle y arrive d'une manière incroyable. Elle est adoubée par Montaigne, quand même. Mmh. La femme de Montaigne, à la mort de Montaigne, lui dit « C'est vous qui allez éditer la version définitive des essais. » Elle contrôle ensuite les privilèges pour contrôler les éditions qui se succèdent et qu'il n'y ait pas des choses qui soient rajoutées et qui dénaturent le texte de Montaigne. Elle commence à écrire des traités. Elle fait des polémiques dans l'espace public sur la religion, sur le rôle des jésuites, sur le rôle des femmes, sur l'égalité des sexes. Enfin, et elle construit quelque chose qui fait qu'elle est une savante reconnue. Alors, on n'arrête pas de se moquer d'elle, mais n'empêche que les jeunes intellos qui arrivent dans cette République des Lettres, eh ben, souvent, ils se disent « Tiens, je vais aller dire bonjour à Gournay, ça peut être pas mal pour la manière dont je suis perçue et dont je vais pouvoir pénétrer dans cette République des Lettres. » C'est quand même incroyable.
Alors, il nous reste 3 minutes pour évoquer un sujet très important. Vous disiez que vous aimiez beaucoup les plaisanteries. Ceci n'en est pas une.
Les constats qui sont faits dans les 3 rapports préparatoires pour cette loi de programmation pluriannuelle de la recherche, c'est des constats que nous partageons tous. Le constat d'une précarisation extrême des personnels dans l'enseignement et la recherche, le constat d'une faible attractivité des métiers, nous sommes plutôt mal payés, surtout en entrée de carrière. Donc ces constats sont justes, mais jamais, jamais, on ne se demande comment on en est arrivé là.
Marie-Frédérique Pellegrin, vous venez d'entendre la voix de Juliette Dumont. C'était un extrait du Temps du débat sur France Culture du 27 janvier 2020. Elle est maître de conférence en histoire contemporaine à la Sorbonne Nouvelle et elle s'exprimait sur la loi LPPR, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche pour les années 2021 à 2030. Pourquoi cette loi est-elle, fait-elle autant polémique ?
Oui, merci Adèle de me permettre d'en dire un mot, parce que c'est vrai que le philosophe dans la cité, le philosophe qui intervient, on peut intervenir sur tout un tas de choses, mais moi j'ai préféré intervenir sur quelque chose qui me touche de près et que je connais bien. Et donc c'est vrai que l'université pour moi c'est une institution d'utilité sociale, hein, c'est vraiment un bien commun, on produit, on partage, on critique des savoirs. Et voilà, j'aimerais beaucoup insister sur le fait que on a là une loi qui est sidérante, c'est-à-dire que c'est une loi qui se fait contre l'ensemble de la communauté universitaire, de sud à l'autonome, hein, quel que soit le syndicat, tout le monde est absolument contre. Et je trouve que c'est très très inquiétant ce qui se passe en ce moment sur l'idée que le monde universitaire serait un monde un peu hostile, un monde qui aurait ses propres codes en dehors des valeurs de la République, ont même dit certains. C'est très très inquiétant parce que nous sommes la seule institution de bien commun, hein, où vraiment encore une fois l'idée c'est de discuter de tous les savoirs. Pour moi cette loi elle met fin à la reconnaissance par les pairs avec la diminution des missions du CNU. Elle propose que des contrats précaires qui permettent pas aux jeunes chercheurs de se projeter dans l'avenir de la recherche. C'est très long la recherche en sciences humaines comme en sciences dures. Et donc, la baisse des financements, évidemment. Tout cela m'inquiète beaucoup, chère Adèle.
Et est-ce que vous avez un moyen d'action ?
Alors, on n'en a aucun, puisque le ministère refuse absolument de nous entendre. Mais encore une fois, je crois que c'est une loi qui fait l'unanimité contre elle. Mmh. C'est quand même troublant, c'est très inquiétant. Nous sommes le lieu du savoir.
Est-ce que vous êtes inquiet quant à l'avenir de l'enseignement de la philosophie en France et la recherche ?
Très inquiète par la réforme du bac, très inquiète par les moyens qui sont de plus en plus faibles à l'université. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la vie que d'épanouir l'esprit, de se former intellectuellement? Quand une fois qu'on est formé intellectuellement et qu'on a un esprit critique vis-à-vis de sa société, on est prêt pour tout comprendre. Donc c'est vrai, je suis très inquiète.
Eh bien, j'espère que vous trouverez les moyens de vous faire entendre, vous et tous vos collègues, évidemment. En tout cas, merci d'en avoir d'avoir tenu à en parler ce matin à ce micro. Et merci pour toute cette discussion que nous venons d'avoir. Je peux renvoyer à vos différents ouvrages. On les mettra en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. J'en cite un aux éditions de l'ENS. Pensée au pluriel du corps et différence des sexes à l'époque moderne. On se quitte avec une chanson qui est votre choix aussi. On est bien loin d'Anne Sylvestre et de Bobby Lapointe, puisqu'il s'agit d'une chanson d'Aya Nakamura. Pourquoi elle ?
Femme forte, femme indépendante, femme qui brise les codes. Pour moi, une grande artiste. Et sa réception en France est justement très symptomatique de l'époque que nous vivons. Elle est très ambiguë, alors que c'est une star internationale. C'est mon ami Thierry Hoquet qui me l'a fait découvrir. Mes filles l'adorent. J'adore Aya Nakamura.
Et en plus, jolie nana.
Jolie nana, recherche jolie Joe. Comment on fait? Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos.
Aya Nakamura. Oh yeah. Tu ne vas pas me manquer. Toi qui croyais me connaître, t'es rempli de charabia. Tu ne sauras plus rien du new moi. Je ne peux pas supporter. T'as osé me comparer. T'inquiète pas, je vais tout niquer. C'est la putain de la. Qui va se négliger? Et moi, je vais pas me négliger. Si c'est fini. C'est la vie, vie, vie. Bientôt j'aurai tout zappé. J'ai les oui, oui.
Jolie
oui.
Nana, recherche joli Joe. Comment on fait? Je suis pas très mytho. Moi j'ai le truc, je sens les pipos. Les pipos. Oh yeah. Ils m'ont rendu bête, bête, bête. Je suis tombé la première. Merde, merde. Ils m'ont rendu bête, bête, bête. Je suis tombé la première. Merde, merde.
Si t'as les critères, ça me va. Pas dans les délires de Vice. Tu penses assurer, c'est bon. C'est bon. Tu peux déposer ton CV par mail. Mais qui va se négliger? Je vais pas me négliger. Si c'est fini, c'est la vie, c'est la vie. Vie, vie. Bientôt j'aurai tout zappé. J'ai les oui, oui.
Jolie nana, recherche joli Joe. Comment on fait? Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos. Les pipos. Oh yeah. J'suis tombé la première, merde, merde. Ils m'ont rendu bête, 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 bête. J'suis tombé la première, merde, merde.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps, comme tous les vendredis, de retrouver l'instant archive, la philo dans le rétro. Aujourd'hui, c'est Esther Valency qui vous propose de découvrir Albert Camus, qui parle du théâtre et de la comédie du bonheur et qui finit par vous donner un conseil, un ultime conseil pour vivre la vérité. Eh bien, jouez la comédie.
Vous croyez avoir la radio?
Vous n'aurez vraiment la radio qu'avec un poste moderne.
Comment? Pourquoi je fais du théâtre? Eh bien, je me le suis souvent demandé. Et la seule réponse que j'ai pu me faire jusqu'à présent vous paraîtra sans doute d'une décourageante banalité. Tout simplement parce qu'une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux. C'est que je préfère la société des gens de théâtre, vertueux ou pas, à celle des intellectuels, mes frères. Et pas seulement parce qu'il est connu que les intellectuels, qui sont rarement aimables, arrivent difficilement à s'aimer entre eux. Non, mais voilà, dans la société intellectuelle, je ne sais pourquoi, j'ai toujours l'impression d'être coupable. Il me semble toujours que je viens d'enfreindre une des règles du clan. Cela m'enlève du naturel, bien sûr, et privé de naturel, je m'ennuie moi-même. Voyez-vous, un écrivain travaille solitairement, est jugé dans la solitude, surtout se juge lui-même dans la solitude. Cela n'est pas bon, ni sain. Pour peu qu'il soit normalement constitué, un jour vient toujours où il a besoin du visage humain, de la chaleur d'une collectivité. Un parti, par exemple, un mouvement, une église, sont aussi des communautés. Mais le but qu'elles poursuivent se perd dans la nuit de l'avenir. Au théâtre, au contraire, le fruit du travail, qu'il soit amer ou doux, sera recueilli un soir, connu longtemps à l'avance et dont chaque jour et chaque nuit de travail rapproche. Pour moi, je n'ai connu
que dans les sports d'équipe au temps de ma jeunesse, cette puissante sensation d'espoir et d'exaltation qui accompagne les longues journées d'entraînement jusqu'au jour du match, victorieuse ou perdue. Et vraiment, le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les scènes de théâtre et dans les stades de football qui resteront mes vraies universités. Mais pour en rester aux considérations personnelles, je dois ajouter que le théâtre m'aide à fuir l'abstraction qui menace tout écrivain. De même qu'au temps où je faisais du journalisme, je préférais le travail des mises en page sur le marbre des imprimeries à la rédaction de ces sortes de prêches qu'on appelle éditoriaux. De même, j'aime qu'au théâtre, l'œuvre s'enracine au niveau des praticables, des projecteurs, des toiles et des objets. Voilà, il me semble, assez de raisons personnelles qui expliquent que je donne au théâtre un temps que je refuse avec obstination aux dîners en ville et au monde où l'on s'ennuie. Ce sont des raisons d'homme, bien entendu, mais j'ai aussi des raisons d'artiste, c'est-à-dire plus mystérieuses. Et d'abord, je trouve que le théâtre est un lieu de vérité. On dit généralement, il est vrai, que c'est le lieu de l'illusion, mais n'en croyez rien. C'est la société, plutôt, qui vivrait d'illusions. Et vous rencontrerez sûrement moins de cabotins à la Seine qu'à la ville. Oui, les feux de la Seine sont impitoyables. Et tous les trucages du monde n'empêcheront pas que l'homme et la femme qui marchent ou parlent sur ces 60 mètres carrés se confessent d'une certaine manière et déclinent, malgré les déguisements et les costumes, leur véritable identité. Oui, croyez-moi, pour vivre dans la vérité, jouez la comédie.
C'était une archive d'Albert Camus, un extrait de l'émission de la télévision française Gros Plan, réalisé par Pierre Cardinal, une archive du mois de mai 1959. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Sachez que chaque membre de l'équipe est confiné chez lui, chez elle en fait, car ce sont que des filles en ce moment, mais qu'elles accomplissent quand même chaque jour le même travail et je les en remercie vivement. Et j'ai plaisir à dire leur nom chaque jour. Aujourd'hui, c'est Clara De Giovanni qui a préparé cette émission avec Manon Delasselle, Avril Poignant-Le Goff, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert qui s'occupe également du site internet de cette émission. Allez y jeter un œil, il est extrêmement bien fait. Esther Valency qui a réalisé pour vous cette série d'émissions sur Diderot et cette émission, ce Profession Philosophe avec Marie-Frédérique Pellegrin. À la prise de son aujourd'hui, c'était Clara Galivelle, accompagnée de Clément Daté. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle série d'émissions. On parlera des fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes. Quel plaisir! On partira de quatre fragments différents. Attente, je t'aime, jalousie et scène de ménage. Ce sera l'occasion d'entendre ces textes sublimes lus par Fabrice Lucchini, Denis Podalydès, d'essayer de comprendre comment la pensée de Barthes se retrouve dans chacun de ces fragments. Vous verrez, en plus d'être absolument magnifique, c'est vraiment passionnant. D'ici là, vous pouvez réécouter cette série d'émissions, ces Professions Philosophes. Sachez que vous pouvez tous les réécouter. Ils existent depuis 2 ans maintenant et ils sont tous disponibles en ligne. Comme ça, vous pourrez comparer les paroles d'un philosophe avec un autre. Et on continuera évidemment à leur donner la parole au moins jusqu'à la fin de l'année. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. Et donc, pour écouter l'émission, vous pouvez vous rendre sur le site de France Culture. Vous pouvez également télécharger l'application Radio France pour écouter chaque émission en direct, quel que soit le groupe de radio que vous souhaitez écouter, du moment qu'il est à Radio France. Et vous pouvez aussi les écouter en téléchargement, en podcast, pour les écouter où vous voulez et quand vous voulez. On se retrouve lundi à 10h. Et d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.